30 meters, 20 meters, 17 meters, standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
Ça y est, Axel, InSight est sur Mars. Cri de joie, évidemment, à la NASA. Et depuis donc moins de 18 heures, c'est tout le spatial français aussi qui est en émoi.
Mais oui, Mathieu, hier soir, 20h56, c'était la huitième fois que l'humanité déposait sur Mars un objet avec succès. Mais cet atterrissage-là a une saveur particulière, puisque l'instrument principal de la mission InSight, le sismomètre SAIS, est issu de la recherche française. Pour revenir sur la soirée d'hier soir et pour comprendre la mission, on reçoit par téléphone l'astrophysicien Francis Rocard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES et vous animiez hier à la Cité des Sciences et de l'Industrie la retransmission en direct de cet atterrissage. Alors, c'est pas le premier module que vous voyez s'enfoncer à des dizaines de milliers de kilomètres heure dans l'atmosphère martienne. Est-ce qu'on s'habitue à la tension qui règne dans ces moments-là?
Non, on s'habitue pas parce qu'on sait que tout se joue en 7 minutes terrifiantes. Tout est automatique, ça passe ou ça casse, et donc on est extrêmement tendu et on attend le touchdown confirm qu'on a entendu.
Oui.
Et là, tout le monde a explosé de joie. Philippe Lognonnet a même pleuré parce que ça fait une trentaine d'années qu'il attend ce moment.
Oui. Alors tout s'est déroulé à peu près comme prévu, même tout s'est déroulé comme prévu. Quelles sont les dernières nouvelles arrivées depuis le touchdown, depuis le module InSight?
Alors, la bonne nouvelle, c'est que les panneaux solaires ont été déployés, donc InSight est alimenté en énergie solaire, vous voyez, c'est très écologique,
oui.
Et donc on va pouvoir travailler 2 années entières grâce à ces panneaux, voire plus si affinité, et dès demain, le bras manipulateur, la grue, va se déployer, va prendre des belles photos de l'environnement, de là où on doit poser InSight, et pendant 2-3 mois, on va consciencieusement, calmement, on va prendre notre temps, déposer le sismomètre, lui rajouter une protection thermique, et quand il sera au sol, on n'y touchera plus, et il pourra enregistrer les vibrations de Mars pendant extrêmement longtemps.
Donc ça veut dire, on apprend dans ce que vous dites, qu'il y a des tremblements de terre sur Mars. C'est la mission InSight, c'est mesurer ces tremblements de terre.
Voilà. Le sismomètre, par définition, mesure des tremblements de terre, mesure des secousses. Et les secousses peuvent être dues à des effets du refroidissement thermique de la planète qui craque. C'est des petits séismes sur Terre. On s'attend pas du tout à des gros séismes parce qu'il n'y a pas de tectonique des plaques sur Mars. Ça peut être aussi une activité volcanique en fin de vie qui pourrait provoquer aussi des petits séismes. Et puis les impacts de météorites dans la région autour de 1000 km, on pourra les détecter et on aura comme ça la position de la source et on pourra ainsi scruter l'intérieur de Mars, son noyau, sa croûte, son manteau.
Est-ce que Mars, justement, Francis Rocard, est souvent bombardé de météorites?
Oui, plus que la Terre, parce que l'atmosphère est très fine, donc les météorites sont beaucoup moins détruites quand elles tombent sur Terre. D'ailleurs, depuis qu'on explore Mars avec des rovers, on en a trouvé 5 ou 6, beaucoup plus qu'on ne l'avait imaginé.
Alors, on l'a vu rapidement après son arrivée, à peu près une heure, InSight a transmis sa première photo. On voit une vaste plaine bien dégagée au niveau de l'équateur, avec quelques cailloux par-ci, par-là. Est-ce que le site ressemble à ce que vous visiez pour cette manipulation ?
Ah, on avait visé l'équivalent en France de la Beauce, hein. C'est étudié pour. On cherchait un endroit le plus plat possible, on ne cherche absolument pas les reliefs, on veut déposer un sismo sur un sol très plat, bien horizontal, et donc on a choisi cet endroit parce qu'il est à basse altitude et parfaitement plat.
Alors cet instrument SAIS qui va être déposé avec une grande prudence, il est véritablement une prouesse technologique. Quelle différence avec un sismomètre qu'on pourrait utiliser sur Terre ?
Bah, simplement, un sismomètre sur Terre est extrêmement fragile. Si vous le secouez, il marchera plus. Nous, ouais. Notre sismo, il faut qu'il fonctionne après avoir subi des chocs au moment du lancement, des chocs au moment de l'atterrissage et des variations thermiques assez violentes sur Mars. Vous savez que la température varie entre 0 et moins 100 degrés. Donc tout ça doit être qualifié pour fonctionner sur Mars. C'est ça qui est compliqué.
Alors c'est le travail de la recherche française depuis 25 ans, peut-être même plus. À quoi est-ce qu'il ressemble et comment il va être déployé cet instrument ?
Alors, il ressemble à une sphère sous vide dans laquelle on a mis nos 3 sismomètres qui sont des bijoux de technologie. C'est une espèce de pendule qui ne ressemble pas à un pendule classique. Et pourquoi dans une sphère sous vide ? Parce que sous vide, un pendule vibre très bien sans atténuation par l'atmosphère. Et puis, on l'a entouré d'une protection thermique C'est la photo qui a d'ailleurs a été dévoilée ce matin. On le voit posé sur le deck de d'Insight. Il est bien sur Mars, je confirme, il est bien à bord, on le voit sur la photo.
Il s'est pas décroché.
Non, il est parfaitement là où il faut. Et puis, on va lui rajouter encore une protection thermique supplémentaire qui ne sera pas en contact pour des raisons sismiques et qui va aussi le protéger du vent. Donc, on veut pas que le vent vienne taper sur InSight parce que on en ferait un anémomètre. On mesurerait le vent et pas les tremblements de terre.
Alors, quand est-ce qu'on va le sortir du robot pour le poser sur le sol, sur Mars?
Alors, ça va prendre un peu de temps. Je crois que ça sera autour de Noël. On va le poser au sol et l'affaire sera pas terminée puisqu'il faudra derrière le rajouter sa protection thermique. Donc normalement fin février, on devrait être fin prêt pour les mesures sur le long terme.
Donc il faut attendre 2019 voire 2020 pour les analyses et les résultats alors.
Oh, on pense qu'on aura évidemment des résultats bien avant 2020, dès le 1er mars. Enfin, dès que le sismo est en route, la grande surprise, c'est de savoir s'il y a des tremblements de Mars. En fait, tout est basé sur des modèles, donc les modèles, vous savez, on peut se tromper. Donc ouais. On attend d'avoir enfin des mesures sur cet aspect de Mars.
Les tremblements de Mars, bah, c'est très joli, on aime beaucoup
ça. On s'est posé la question ce
matin. Et Jean Jouzel aussi aime beaucoup. Merci beaucoup Francis Rocard.
Merci à vous.
Merci pour ces explications et puis Axel, on se retrouve demain à la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, une première pour limiter la pollution des géants de la mer. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné hier le capitaine du paquebot Azura à 100 000 euros d'amende pour non-respect des normes anti-pollution. En effet, l'armateur avait fait escale dans le port de la cité phocéenne chargé d'un fioul dont la teneur en soufre était interdite en France. Ce carburant peu raffiné coûte presque deux fois moins cher qu'un fioul moins soufré, mais ses émanations sont bien plus irritantes et polluantes pour l'atmosphère. Jean-Joseph, juste un mot sur la part des transports dans les effets de gaz à effet de serre.
Oui,
très importante.
Là, il faut bien voir problèmes différents. C'est du soufre, c'est de la pollution, et c'est important parce que le transport maritime, effectivement, utilise du combustible généralement, je dirais entre parenthèses, très sale. Ouais. Donc, mais au niveau des gaz à effet de serre, c'est quand on parle des soutes en français, eh bien, c'est de l'ordre de 4% des émissions, mais c'est encore. Alors, c'est transport aérien et transport maritime, mais c'est en très forte augmentation. C'est bien ça le problème, par exemple. On arrive à 8% si on prend le tourisme en général.
Ouais. Également dans l'actualité, un scanner qui s'appelle TEP Explorer Total Body qui peut capturer l'image 3D d'un corps humain en un seul passage. Mis au point par l'Université de Californie, ce long tube bourré de technologie réalise à la fois une tomographie par émission de positrons ainsi qu'un densitomètre au rayon X en moins de 4 secondes. Ce bijou de l'imagerie médicale a également l'avantage de réduire considérablement les expositions au rayonnement en remplaçant bon nombre d'examens. Aucun prix de vente n'est annoncé pour le moment. Et puis pour terminer, attention aux piqûres de Lupuntia fulgida. Ce cactus d'Amérique du Nord a des épines très grandes mais aussi très attachantes. Elles sont ornées de minuscules crochets qui les rendent quasiment impossibles à retirer de la peau une fois enfoncées. Des chercheurs américains passionnés par ce cactus ont réussi à soulever un morceau de viande de porc de plus de 250 grammes avec seulement une aiguille plantée dedans. Les épines de cactus peuvent avoir diverses fonctions pour la plante comme la défense, l'ombrage ou la collecte d'eau. Mais les épines de la fulgida ont un but reproductif. Elles s'accrochent sur des animaux assez maladroit pour s'y frotter, qui aide ainsi la plante à disséminer sa descendance.